Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesselink au micro. Aujourd'hui, nous allons parler du colloque anniversaire des 20 ans de l'atelier Genre et sexualité. Pour nous parler de ce colloque, nous avons deux invités. David Paternotte d'abord, il est professeur en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Il co-dirige la structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, acronyme STRIGE. Il est également l'un des initiateurs de l'atelier Genre et sexualité, à entendre au pluriel, hein, genre et sexualité. Un atelier qui fête ses 20 années d'existence avec un colloque qui a lieu ces 15 et 16 décembre du côté de l'USCOIR. Et puis à ses côtés, il y a Leïla Ferry, elle est doctorante en sociologie attachée à cet atelier genre et sexualité. Ensemble, elles ont également co-dirigé un dossier dans la Revue Nouvelle, une revue de débat qui existe elle depuis 80 ans, un dossier intitulé « Gender Friction » avec le R entre parenthèses, sous-titre « Prospective en genre et sexualité ». On parle de ces deux sujets dans un tout petit instant avec nos invités. En studio aujourd'hui pour nous parler d'un colloque. Un colloque et d'un dossier qui se trouve dans la Revue Nouvelle, l'avant-dernière édition. On en parle dans un instant. David Paternotte, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes une des chevilles ouvrières de l'atelier Genre et sexualité dont on va parler aujourd'hui. Colloque anniversaire, 20 ans de l'atelier Genre et sexualité qui va se tenir ces 15 et 16 décembre du côté de l'USCOIR. Et vous, Leïla Ferry, vous travaillez également au sein de cet atelier Genre et sexualité de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes doctorante en sociologie, c'est bien ça ?
Tout à fait, merci.
Et vous avez collaboré également à la Revue Nouvelle, l'avant-dernière édition, c'est le d'octobre dernier, le numéro 7, avec un dossier intitulé « Gender Friction », avec le R entre parenthèses, pour comprendre qu'il y a friction et fiction, prospective en genre et sexualité. On va donc parler de ces deux événements. Mais d'abord, resituons l'atelier Genre et sexualité, conjointement d'ailleurs avec une structure de recherche sur le genre, l'égalité et la sexualité, hein, acronyme STRIGE, a joué un rôle assez important dans le développement de ce champ de recherche. Depuis 20 ans, du coup, David Paternotte, vous êtes du début.
Voilà, je suis du début. Donc effectivement, il y a 20 ans, ce n'était pas encore un centre de recherche. C'était un séminaire doctoral. Essentiellement, on était quatre. Donc il y avait moi, mais il y avait aussi David Berliner, qui est toujours à l'ULB en anthropologie. Cathy Herbrand, qui aujourd'hui est prof en Angleterre. Et Annalisa Cassini, qui est prof à l'UC Louvain maintenant. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un espace pour discuter de questions de genre, de sexualité, en termes de recherche au sein de l'Institut de sociologie, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et après, donc ça c'est 2005, ça va durer jusqu'en 2017, et c'est en 2017, notamment quand on a la création de la faculté de philosophie et sciences sociales, un an et demi avant, qu'on va décider de se transformer en centre de recherche, et c'est aussi le moment où on est rejoint par deux historiennes, qui sont Valérie Piette et Amandine Laureau.
Oui, parce que le côté interdisciplinaire, c'est essentiel dans votre atelier.
Voilà, donc à la base, on avait socio, anthropo, sciences po et psychologie sociale. Aujourd'hui, on a surtout sociologie, histoire et un petit peu de sciences politiques.
Et vous accueillez au sein de votre atelier genre et sexualité des jeunes chercheurs et aussi des doctorantes, hein, comme Leïla Ferry par exemple. Vous êtes arrivée comment dans cet atelier genre et sexualité de l'ULB ?
Je suis arrivée à l'atelier de genre sexualité parce que j'ai réalisé, avant d'être doctorante, deux mémoires qui avaient très de près aux questions des masculinités et aux hommes. Un dont David était lecteur et un dont il a été directeur ensuite. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'ensuite on a entamé ensemble un processus de doctorat. Et maintenant j'y suis depuis quelques années.
Voilà, vous y êtes et vous y restez. Donc, colloque anniversaire des 20 ans de cet atelier genre et sexualité. Hein, David Paternotte, vous le disiez il y a un instant, en 2005, l'atelier a été porté sur les fonts baptismaux. C'est 15 et 16 décembre, on en parle à l'USCOAR. Quel va être le programme ?
Alors, le programme, c'est... En fait, on a lancé un appel à communication assez large. L'idée, c'était pas de commémorer l'histoire de ce qu'on a pu faire en 20 ans, même si on fait revenir les anciens et les anciennes qui aujourd'hui travaillent dans d'autres universités un peu partout dans le monde. Et l'idée, plutôt, c'était de soutenir les jeunes. Et donc, les anciens membres qui maintenant poursuivent leur carrière sont plutôt là comme discutants, sont plutôt là en soutien des jeunes qui ont répondu à un appel à communication. Et l'idée, c'était vraiment prospectif. Donc, on a identifié plusieurs thématiques et après, c'était... ce que les gens proposaient.
Prospectif, c'est le mot que vous utilisez assez couramment, hein, David Paternotte. Le sous-titre de Gender Friction, prospective en genre et sexualité dans la revue Nouvelle. Pourquoi ce titre ?
Alors, l'idée, c'était de penser au futur et donc de ne pas regarder vers le passé pour un anniversaire, mais plutôt de se dire, dans 20 ans, on espère encore être là. Et c'est peut-être là où on a le titre principal du numéro aussi. L'idée qui est à la fois des frictions, je pense, c'est assez évident et on en parle dans l'introduction. On est dans un contexte avec des attaques, avec des tensions, moins fortes en Belgique qu'ailleurs, mais rien n'empêche de penser que d'ici quelques années, ça ne se produise pas ici aussi. Et en même temps, des fictions, c'est-à-dire qu'il y a un investissement dans les futurs ou en tout cas quelque chose qui est central dans les études de genre. C'est aussi se donner les moyens de penser un autre futur que le présent, quelque chose de plus égalitaire. Et donc, on voulait avoir cette tension, explorer cette tension entre friction et fiction.
Et Leïla Ferry, vous avez collaboré à ce numéro de la revue Nouvelle avec ses dossiers Gender Friction, prospective en genre et sexualité. Vous avez entre autres, à deux mains avec David Paternotte, composé l'introduction. Qu'est-ce que vous avez envie de développer particulièrement ?
D'ajouter par rapport à ce que David a déjà dit, peut-être que l'exercice effectivement de penser le futur ou de parler d'un point de vue de la prospective est plutôt quelque chose que nous, académiques ou chercheuses, on fait peu et qui était donc un exercice inédit, j'ai envie de dire, intéressant, inconfortable, mais nécessaire et enthousiasmant aussi par ailleurs.
Vous y avez allusion il y a un instant, David Paternotte, à la situation internationale. On voit bien le recul des valeurs outre-Atlantique, par exemple. Mais en Belgique, ce n'est pas rose non plus, on va dire ça comme ça. Même si c'est moins spectaculaire qu'aux États-Unis, la situation en est pas moins inquiétante. Hein, outre des déclarations politiques et des rapports partisans remettant en cause certains fondements de la lutte contre les discriminations, on constate, dites-vous, un déclassement et selon toute vraisemblance, un définancement des politiques d'égalité à presque tous les niveaux de pouvoir. C'est quand même inquiétant.
Oui, donc on ne le voit pas encore en termes de recherche. Là, ce qui va se poser au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la situation financière, donc le définancement de l'université du FNRS. Est-ce que ça aura des conséquences ? C'est un point d'interrogation. Ce qui est probable, c'est qu'on aura un moment compliqué pour l'université en général. Après, par contre, ce qu'on voit sur le volet politique, c'est effectivement que les politiques d'égalité sont moins centrales qu'avant. Les événements les plus importants, mais ce ne sont pas les seuls, c'est la perte de 25% du budget d'UNIA au niveau fédéral. Et c'est également l'audit qui est annoncé par la Cour des comptes de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, dont on ne sait pas encore l'issue, mais en tout cas dans les deux cas, donc ce sont des attaques claires contre des institutions qui se battent pour construire plus d'égalité en Belgique. Et de manière générale, ce qu'on voit aussi, c'est... D'une part, on a la crise bruxelloise qui crée une situation très compliquée pour tout le champ associatif. Probablement, on verra, mais il faudra bien que la région coupe son budget quelque part, donc on va voir quelles seront les conséquences. L'autre élément, c'est aussi une diminution des financements pour la société civile. Et donc on est là dans une période assez compliquée pour toute la société civile, notamment dans les champs des droits des femmes, du féminisme ou des questions LGBT.
On va y revenir dans un instant. Donc on assiste, hein, il faut dire les choses, à un véritable recul, hein, tout le monde le constate, et on n'est peut-être qu'à l'aube de quelque chose. Si vous vous reportez en arrière, je sais que vous avez plutôt une vision prospective, hein, que vous voulez regarder vers l'avant, vers le futur, mais imaginez-vous, souvenez-vous à la création de l'atelier ou à ses débuts, est-ce que vous auriez pu imaginer une situation telle qu'on commence à l'apercevoir et la vivre aujourd'hui ?
Je dirais, il y a 20 ans, c'était plus la période où, je sais pas, par exemple, dans des réunions de doctorants, quand j'expliquais ce sur quoi je travaillais, qui était le processus de revendication de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, il y avait toujours des sourires gênés, voire des rires. Donc, c'était un sujet qui n'était pas légitime. Donc, ça a changé. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, ce sont des sujets qui sont reconnus, qui sont certainement aujourd'hui à l'ULB soutenus par les autorités de l'université. Donc là, on a un bond assez phénoménal en 20 ans. Après, ce qu'on a, c'est qu'on a vécu là... 20 20 ans de progrès, de construction. On a vraiment pu construire des choses. Ce à quoi on n'est pas habitué et probablement pas prêt, c'est de devoir être dans un mode, peut-être de retourner à un mode de résistance ou de retrouver ce mode de devoir se battre pour défendre ce qu'on étudie et nos sujets, nos domaines de recherche.
Voilà, mais vous ne baissez pas les bras, quoi qu'il en soit, même si vous parlez de moments de basculement aujourd'hui ?
Oui, à l'étranger, c'est clair. Et le cas le plus emblématique aujourd'hui, c'est les États-Unis. Avant ça, on avait eu la Hongrie avec la désaccréditation des masters en études de genre. Il y a eu des tentatives similaires en Roumanie. Il y a eu un certain nombre d'autres attaques dans d'autres pays. Par contre, en termes de recherche, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec le retrait de tous les projets qui ont un certain nombre de mots-clés, et dans les mots-clés, il y a beaucoup de mots qui ont rapport avec le genre et la sexualité, mais ça, c'est un impact énorme sur les champs de recherche. Mmh. Je discutais récemment avec une collègue qui siège dans la commission Fulbright ici en Belgique, mais ça a un impact très concret sur les gens, les chercheurs qui sont envoyés aux États-Unis et qui peuvent aussi aller aux États-Unis. Par exemple, si on prend les post-docs, il y avait un peu cette attente dans un certain nombre de domaines de recherche, que les postdocs fassent un séjour de recherche aux États-Unis. Sur les questions en études de genre, ce n'est plus possible aujourd'hui, dans une carrière académique d'un chercheur de l'ULB, d'aller faire un postdoc aux États-Unis. Mmh. Donc ça, c'est les effets très concrets de ce qu'on vit aujourd'hui.
Mmh. Quelque chose à ajouter, Leïla Fihri ?
Absolument pas.
Très bien. Alors parlons du contenu de ce numéro de la revue Nouvelle, le numéro 7 de la revue Nouvelle. On parle de fiction et de friction, on l'a compris. Un numéro qui rassemble des membres et des anciens et anciennes chercheuses de l'atelier genre et sexualité qui poursuivent leur activité professionnelle parfois à des centaines de kilomètres de l'ULB. Alors par rapport à ce que vous venez de dire, ça reste confortable pour tout le monde ?
Pour l'instant, oui, en tout cas pour celles et ceux qui ont réussi à trouver des emplois. Donc la question, mais qui se pose dans toutes les carrières académiques, et donc il faut voir comment le contexte actuel va avoir un impact là-dessus, c'est pour celles et ceux qui sont à la fin de leur période de thèse, qui sont à la fin de leur post-doc, et qui donc doivent se placer au niveau de la carrière. Donc là, je dirais les membres ne sont pas nécessairement au même stade ou dans le même confort suivant les personnes.
Vous qui êtes doctorante en sociologie, Leïla Fihri, ça vous inquiète ? Ou vous êtes dans une attitude de résistance ?
Excellente question. Ça m'inquiète de façon générale. Et à titre personnel, probablement que ça pèse dans ma décision de rester ensuite dans le milieu académique ou non.
Ok, alors, ce dossier s'ouvre par un poème, parce que c'est un dossier a priori scientifique. Et pourtant, le premier texte qu'on trouve, c'est un poème signé Alexandra Anna de l'Université de Montréal, qui donne voix à un sujet encore assez peu audible, celui de l'inceste et de la violence intrafamiliale. C'est assez étonnant et c'est très touchant de se plonger dans ces mots qui sont vraiment une œuvre poétique à 100%, pas du tout scientifique. C'était important d'entamer le dossier par quelque chose qui peut donner une respiration particulière.
Oui, c'était important, notamment... parce que comme on l'a dit, c'est écrit par des personnes qui sont issues du milieu académique, mais ce ne sont pas des textes scientifiques. Ça permettait aussi probablement d'ouvrir plus largement des questions d'imaginaire, d'émotions, de souvenirs via les mots poétiques d'Alexandra, même s'ils sont durs aussi.
Bien sûr.
Et c'était un moyen aussi original d'ouvrir ce dossier.
Voilà, des textes écrits par des académiques, mais ce n'est pas des textes scientifiques, c'est important de le préciser quand même, ce sont des points de vue.
En tout cas, c'est plus que des points de vue. On a vraiment voulu explorer les possibilités que donne la revue Nouvelle comme revue de débat plus que revue scientifique. Donc il y a eu un processus de notre part, de la part de la revue, de relecture, de travail éditorial, etc. Mais il n'y a pas d'évaluation par les pairs, ce qui permet justement cette dimension prospective. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu... Enfin, ce qu'on a écrit ici, pour beaucoup de textes, ne serait pas publiable dans une revue scientifique. Parce que ce sont des idées qu'on a voulu explorer et qu'on a voulu porter jusqu'à leur terme, ou en tout cas d'explorer ces idées jusque dans leur moindre recoin.
Mmh, ok, très intéressant. Alors, dossier complet avec pas mal de collaboratoristes. Le deuxième sujet parle du corps, de ses transformations et surtout de la question du tatouage. Repenser le tatouage et le tatouage queer en particulier. Cet article, on le doit à Pierre de Thiers. Et puis, il y a le vôtre. David Paternotte, et il commence par cette phrase « Dans quelques années, cette catégorie identitaire s'autodétruira ». Vous parlez de la catégorie identitaire qualifiée de « gay ». C'est fort.
Oui, en tout cas, l'idée, là, je pense qu'elle est double. D'un côté, on a un certain nombre d'hommes gays, souvent plus âgés, un peu chagrinés par la disparition potentielle d'une catégorie qui a été importante dans leur construction identitaire. Et d'un autre côté, quand on voit les jeunes, notamment mes étudiants, quand on pose la question dans un auditoire, de moins en moins vont se définir gays. Ce qui est différent avec la catégorie lesbienne, parce que la catégorie lesbienne connaît une nouvelle jeunesse, ou en tout cas connaît un regain d'intérêt chez un certain nombre de jeunes femmes. Et donc, on voit chez un certain nombre de jeunes hommes, ou de personnes qui se définissent d'ailleurs pas comme des hommes, mais ça fait partie aussi de la remise en cause de la catégorie, l'idée d'explorer d'autres catégories. Et ça, c'est un peu le point de départ du texte, en se disant, ben, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que c'est quelque chose dont on doit s'inquiéter? Et l'idée, c'est un petit peu de dire plutôt, c'est dans la logique des choses au niveau des catégories sexuelles. Pour donner un exemple, aujourd'hui, presque personne, sauf quelques militants, notamment à Paris, vont se désigner comme invertis. Proust aurait pris la catégorie d'inverti, n'aurait pas pris la catégorie de gay. D'ailleurs, elle n'existait pas, en tout cas dans son sens contemporain à l'époque. Donc voilà, on a une redéfinition des catégories. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être un moment de redéfinition de ces catégories, comme on en a vécu quand la catégorie gay elle-même a été inventée dans les années 70.
Les mots, les terminologies ont toute leur importance. Vous faisiez déjà allusion à ça un peu plus tôt dans l'entretien qu'on a là pour l'instant. Effectivement, par exemple, les catégories non-binaires, ça entraîne nécessairement une dissolution de la catégorie gay.
En tout cas, ça la remet en cause, c'est-à-dire que la catégorie gay impose une binarité. C'est-à-dire il y a une division binaire du sexe, souvent du genre, mais certainement du sexe. Et donc, non-binaire fait que ça va dissoudre ses fondements de la catégorie pour faire naître d'autres catégories. On a par exemple pansexuel qui va s'imposer à la place de gay, par exemple, ou d'homosexuel, plus généralement.
Et ça veut dire que gay ou lesbienne, on a bien compris que les deux terminologies ne fonctionnaient pas tout à fait, ou en tout cas ce qu'elles recouvrent ne fonctionne pas tout à fait en parallèle, mais ça ne signifie pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 40 ans.
Probablement. Alors sur lesbienne, on le voit clairement. Chez les gays, ça peut-être signifie la même chose, et c'est peut-être pour ça aussi que la catégorie peut disparaître. Tandis que chez les lesbiennes, on a un réinvestissement, notamment comme catégorie politique, comme catégorie de lutte, mais pas de la même façon que ça peut être une catégorie de lutte dans les années 80. Ce qui, probablement, et c'est quelque chose qui devrait être étudié plus, si on demande à des jeunes femmes qui se disent lesbiennes et des femmes plus âgées qui se disent lesbiennes, probablement que ce qu'elles entendent par lesbienne, c'est pas la même chose. Ce qui est en même temps assez normal dans l'évolution des catégories.
Voilà, il y aura une réflexion d'ailleurs dans la suite du dossier sur les catégories avec une contribution d'un collectif, le collectif Lesbotopia de l'Université libre de Bruxelles qui explore les utopies et les imaginaires lesbiens. Mais encore un mot sur votre collaboration, David Paternotte, avant de donner la parole à Leïla Ferry. Ce terme gay est donc, on l'a compris, ancré dans l'histoire et dans un contexte spatio-temporel particulier. Aujourd'hui, il faudrait dire, qu'est-ce qui est plus adéquat, queer?
En tout cas, pour beaucoup de jeunes, queer a effectivement plus de succès. Si on demande à mes étudiants, plus risque de se dire queer que gay. Gay est aussi souvent associé avec le développement de l'intersectionnalité, à tort ou à raison, mais associé à une catégorie, pour reprendre les propos d'une étudiante, d'hommes blancs, riches et de droite. Alors, je lui ai répondu de droite, je ne sais pas, hommes blancs et riches, probablement plus.
D'accord. Et alors, il y a un acronyme aussi, SOGI, c'est quoi ?
SOGI, ben ça ouais. c'est une volonté qu'on a ou OSIG en français, qu'on a dans les organisations D'accord. internationales, par exemple à l'ONU. L'idée c'est que la catégorie gay ou les autres catégories de LGBT ou LGBTQIA+, sont des catégories identitaires qui sont liées au contexte occidental, à un contexte historique. L'idée SOGI, c'est de pouvoir parler des mêmes choses à l'échelle de la planète, et donc en laissant la place pour d'autres catégories identitaires ou d'autres manières pour les gens de définir leur orientation sexuelle ou leur identité ou leur expression de genre.
Thank you.
La réflexion se continue donc dans ce dossier de la revue Nouvelle, Gender, Friction, Prospective en genre et sexualité, je l'ai dit avec le collectif Lesbotopia, puis on parle de l'activisme numérique aussi, est-ce qu'il supporte ou non toutes ces luttes. Et puis Leïla Ferry, on arrive à vous, en compagnie de Aurélie Aromatario, vous vous attaquez à une question aussi ancienne que contemporaine, comment faire encore société avec les hommes ? Le mot « encore » est entre parenthèses.
Oui, tout à fait. Et initialement, ce qui là ne transparaît pas dans la version papier de la revue, il y avait un point d'interrogation aussi à la fin du titre, qui est présent sur la version web.
D'accord.
Mais donc on s'interroge sur le fait de est-ce que c'est possible encore ou est-ce que ça ne l'est plus du tout ou est-ce que ça l'est partiellement ? Et pour ça, on revient un peu sur des questions de non-mixité, de séparatisme et de sécession, parce que régulièrement, les questions de non-mixité, les réunions en non-mixité, les réunions professionnelles ou militantes en non-mixité sont remises en question, mais elles sont remises en question pour des personnes minorisées. Parce que par exemple, l'exemple qu'on donne dans l'article, c'est de dire une réunion du CARN ministériel belge est de la non-mixité, mais de dominant. Du coup, elle n'est pas remise en question. Et on rappelle aussi que ces espaces en non-mixité séparatistes permettent aussi de s'extraire temporairement des questions de violence, d'oppression et de domination que subissent les personnes minorisées et a fortiori les femmes. Et ça permet pas juste de s'extraire de violences subies, ça permet aussi de faire politique ensemble, de prendre soin les uns les unes des autres et d'imaginer des futurs, pour revenir à la question prospective, et des mondes désirables et habitables ensuite.
Donc vous insistez sur le point d'interrogation après la phrase « Comment faire encore société avec les hommes ?» et vous avez une tentative de réponse.
C'est la question que tout le monde nous pose depuis la publication de l'article.
Donc vous avez eu l'occasion d'y penser.
Alors nous, on ne conclut pas l'article sur une réponse. On fait une petite pirouette et on recite une philosophe française, Manon Garcia, qui dans un de ses derniers livres, met en avant finalement que ce serait probablement plus les hommes qui font sécession avec les femmes de par leur mécanisme de domination.
Ancestraux.
Voilà, tout à fait. Et qu'elle invite les hommes à aimer au moins un petit peu les femmes pour qu'on puisse les aimer et continuer à faire société en retour.
Bon, on va essayer de suivre cette maxime, Leïla Ferry, que les hommes aiment au moins un petit peu les femmes. Et si ça pouvait être beaucoup, ce serait encore mieux.
Merci.
Je vous en prie, c'était avec plaisir. Dans la conclusion que signée Ahmed Amila, on parle de l'université et de la possibilité de... je ne sais pas si j'ai bien prononcé, hein, vous qui êtes sensible aux terminologies, David Paternotte, vous me rectifiez s'il faut, cuiriser l'université. C'est important ?
Oui, en tout cas, ce que pose Ahmed, c'est intéressant parce que c'est une génération entre Leïla et moi. Donc, c'est un de mes premiers doctorants qui maintenant est professeur à Montréal. Donc, c'est aussi continuer à porter cette réflexion critique sur l'institution, même peut-être parfois plus critique que la mienne. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je parle de l'effet générationnel, c'est-à-dire de poser à la fois de comment est-ce qu'on parle de questions compliquées. Et l'article commence en opposant donc au dernier congrès de l'Association internationale de sociologie à Rabat, à la fois les mobilisations pro-palestiniennes qui passaient bien au Maroc et les mobilisations de collègues LGBT qui passaient moins bien au Maroc. Donc il part de cette tension-là. Mais voilà, comment est-ce qu'on pose des questions compliquées qui sont par exemple la question palestinienne au sein de l'université, mais aussi comment est-ce qu'on pose la place de collègues, par exemple minorisés parce que racisés ou d'autres collègues dans l'institution. Et donc voilà, c'est une invitation à continuer à interroger l'institution et interroger la manière dont elle fonctionne. Et de se dire, c'est pas parce qu'on a aujourd'hui réalisé des choses ou acquis des choses que pour autant on devrait arrêter de poser des questions critiques à l'institution.
Colloque anniversaire des 20 ans de l'atelier Genre et Sexualité, dont vous êtes deux représentantes, David Paternotte et Leïla Ferry. C'est le 15 et le 16 décembre du côté de l'USQUAR. C'est donc cet atelier genre et sexualité qui est attaché à l'Institut de sociologie. On est bien d'accord. Et vous êtes doctorante en sociologie, Leïla Ferry, donc vous avez toute votre place au sein de cet atelier. Et il y a également cette autre atelier de recherche, structure de recherche qui s'appelle STRIGE, structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l'égalité et la sexualité, qui, elle, dépend de la Maison des sciences humaines.
Voilà, donc on n'est plus à la Maison des sciences humaines, mais on reste proche. On va peut-être y revenir bientôt. Donc ce sera peut-être de nouveau d'actualité, mais avec un autre statut. C'est-à-dire qu'en fait, ça, STRIGE a célébré ses 10 ans. Et ça, c'est vraiment lié à la division de la faculté de philo et lettres il y a pas mal d'années, avec l'arrivée des de traduction interprétariat de l'ISTI, et avec la création de la faculté de philosophie et sciences sociales. Et dans ce contexte-là, la Maison des sciences humaines avait effectivement été créée, et il y avait des demandes de l'université de créer quelque chose en genre sexualité. Au même moment, il y avait des liens notamment autour de la revue Sextant, qui elle a fêté ses 25 ans l'année dernière, même plus, c'est 30 ans. Moi, je ne sais plus, peu importe, beaucoup d'années. En fait, il y avait un certain nombre de collègues qui se connaissaient et qui voulaient avoir un cadre pour fonctionner ensemble. Et ça, c'est un petit peu, c'est de là que STRIGE est né. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau à l'échelle de l'université. Donc c'est plus grand que l'atelier genre et sexualité. Il y a deux laboratoires qui travaillent vraiment sur les questions de genre et sexualité à l'ULB. C'est l'atelier genre et sexualité d'une part et l'observatoire du SIDA et des sexualités en faculté de psychologie d'autre part. Et puis il y a une structure fêtière, STRIGE, qui comprend aussi des tas de gens qui travaillent dans d'autres labos, je ne sais pas, en sciences politiques, en psychologie sociale, mais qui ont des intérêts pour les questions de genre et sexualité. Donc c'est un peu une macro-structure. Et alors là, le statut de STRIGE a changé en mars dernier. Donc on est devenu... On n'était déjà plus à la Maison des sciences humaines parce que notre période de 10 ans était finie. Et on est devenu un institut interfacultaire de recherche, donc qui dépend directement des autorités rectorales et du département recherche. Et donc là, un des chantiers sur lesquels on veut travailler, jusqu'à présent, on était surtout en sciences humaines et on veut créer des ponts avec les sciences et surtout les sciences de la vie. Et donc, on est en train de discuter avec des collègues en médecine, en pharmacie, à l'école d'infirmières, en santé publique, pour essayer de développer les réflexions genre et les dialogues interdisciplinaires au-delà des limites des sciences humaines.
C'est intéressant ça, effectivement, les sciences de la vie, parce que dans votre article qui se trouve dans la revue Nouvelle, vous insistez sur le fait que la catégorisation nous permet d'échapper à la biologie d'une certaine manière.
Oui. En même temps, les corps existent. Donc ça dépend comment est-ce qu'on construit. La biologie a été structurée par un certain nombre de savoirs. En tout cas, on a classé les corps, on a organisé les corps, mais les corps sont là. Par exemple, Aurélia Romatario, qui a écrit l'article avec Leïla, c'est son travail de post-doc sur l'endométriose, la ménopause. Il y a une réflexion qui était déjà présente dans sa thèse sur comment les corps fonctionnent et comment est-ce que les corps remettent aussi en cause les théories que l'on peut inventer, que l'on peut créer pour essayer de comprendre les questions de genre et de sexualité. Et donc c'est vraiment sur cette base-là qu'il y a une volonté de créer des dialogues pour essayer de dépasser de part et d'autre les angles morts, si on veut, de la réflexion. Exemple très concret, des collègues en médecine s'intéressent à diviser, pour ce que j'en ai compris, parce que voilà, je ne suis pas dans leur discipline, mais en tout cas, de catégoriser tous les organes du corps humain sur base du sexe biologique, en se demandant, est-ce que, du coup, si on fait la somme de ces organes, est-ce qu'on peut dire qu'une personne serait plutôt mâle ou femelle? Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire, quand on divise un corps qu'on va catégoriser comme mâle ou femelle, quand on le voit comme ça en général, quand on regarde à l'échelle des organes, c'est beaucoup plus complexe. Ce qui pose aussi des questions sur certaines manières de réagir de certains organes, sur certains traitements, etc. Donc c'est vraiment entrer dans cette complexité-là qui, du coup, remet aussi en cause la vision très binaire qui est celle dans laquelle nos sociétés, en tout cas, se sont construites.
20 ans de l'atelier genre et sexualité, je rappelle, c'est 15 et 16 décembre du côté de Lou Square. Prospective, toujours ce mot. La suite, c'est quoi après ce moment charnière des 20 ans?
Je ne sais pas préparer les 25 ou les 30. Non, je pense une des choses qui est importante. Bon, ici, l'atelier, a priori, ne va pas disparaître. C'est-à-dire, c'est une unité de recherche à part entière de l'Institut de sociologie. Donc voilà, on est intégré dans l'équipe. Et il y a régulièrement, chaque année, il y a des nouveaux chercheurs, des nouvelles chercheuses qui nous rejoignent. Et ça, c'est un processus qui va continuer. Ce qui était important à l'occasion de ces 20 ans, c'était aussi de garder le lien avec les générations antérieures. Par exemple, Leïla, qui fait partie des dernières personnes à avoir rejoint l'équipe, il y a des gens qui étaient ici il y a 10 ans qu'elle ne connaît pas. Donc l'idée, c'est vraiment de garder ces réseaux avec des collègues. Ben, on a parlé de Dame Damila ou Alexandra Anna. Ben, tous les deux sont professeurs à l'Université de Montréal aujourd'hui. On a un collègue qui est prof en Suède, un autre qui est prof en Angleterre, un autre qui est prof au Brésil. Donc c'est garder ces relations, garder ces liens et donc avoir un réseau d'interlocution, de gens qui se connaissent, de réflexion, qui aujourd'hui est un réseau international. Et à ce niveau-là, c'est important vraiment de voir ces différentes générations. C'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, il y a des discussions en cours pour déposer des projets au FNRS, donc il y aura des gens plus jeunes aussi qui vont peut-être nous rejoindre. Et il y en a aussi des interrogations, des réflexions différentes, des manières différentes de voir ces questions qu'on continue à étudier et qui sont aussi liées aux effets générationnels.
Très bien, merci beaucoup David Paternotte. Je vous rappelle que vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles. Merci Leïla Ferry, doctorante en sociologie, tous les deux attachés, entre autres, à l'atelier Genre et sexualité qui fête, on l'a bien compris, ses 20 ans. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, au cours de cette émission, vous avez eu l'occasion d'entendre Leïla Ferry, elle est doctorante en sociologie attachée à l'atelier Genre et sexualité, et David Paternotte, qui est professeur en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Il co-dirige la structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, acronyme STRIGE, et donc il est un des initiateurs, vous l'avez compris, de l'atelier Genre et sexualité qui fête ses 20 années d'existence avec un colloque qui a lieu ces 15 et 16 décembre du côté de l'USCOIR. Et puis je vous rappelle la revue Nouvelle qui ouvre le débat dans son avant-dernier numéro, le numéro 7, autour de ces questions-là. Gender friction, avec le R entre parenthèses, sous-titre prospective en genre et sexualité. On en a parlé au cours de cette émission. Le tout nouveau numéro de la revue Nouvelle vient de sortir. Le dossier est consacré, lui, aux 80 ans d'idées en mouvement. Voilà, ça c'est le titre de cette dernière édition de la revue Nouvelle, le numéro 8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.